Vincent Leboeuf, quand est né Motus?
C'est une histoire assez longue maintenant, finalement. Ça date de, officiellement de 1996. Ça a été créé par Denis Dufour dans la Drôme, et c'était l'idée de s'occuper, si je me souviens bien, de la saison musicale de Denis Dufour autour du Festival Futura. Donc c'était ça à l'origine. C'est arrivé à Paris vers 2001, et ça a été actif vraiment à partir de 2002-2003. Et j'ai repris la suite de Denis, qui a voulu souhaiter arrêter, en 2007, début 2007. Donc c'est ça l'histoire, et depuis 2007, on a une équipe à la fois d'interprètes et de musiciens, de compositeurs.
C'est un collectif?
Oui, il y a un côté collectif, il y a une direction artistique que je mène, mais j'essaye de faire participer un peu tout le monde aux décisions, et parfois il y a aussi des créations collectives, en effet, il y a eu 2-3 créations collectives, et j'espère en faire d'autres.
Et qui vous soutient?
Les soutiens sont, en premier lieu, la DRAC, pour l'instant, parce que là on est en reconventionnement, donc on attend la réponse pour 3 ans encore. Prochain, on a la SACEM qui est aussi une aide précieuse pour nous. On a la ville de Paris et puis la Speedidam pour certains événements, etc. La DAMI, MFA pour les disques parfois. Voilà.
Et la Drôme, non? La Drôme via la DRAC?
La DRAC, non, ça c'est fini. Pour le Festival Futura, il n'y a plus que la SACEM et la ville de Cré. Il n'y a plus rien d'autre.
Vous avez une radio aussi?
Ah oui, on est lié à une radio, ce qui est sur Cré, justement, aussi. Et sur Internet, on a une émission de radio, oui, les semaines, animée par Bérangère Maxima, qui est une compositrice, qui brasse la création musicale, électroacoustique et expérimentale.
De quel désir est venu de créer Motus et de continuer à le développer?
Le désir de Denis, parce que là, c'est lui son désir de création, c'est d'avoir une structure indépendante des studios. Donc, ça apporte une liberté par rapport à la création, de pouvoir jouer qui il veut, sans pression, en totale liberté, en fait. Et d'avoir des acousminiums mobiles, parce que Motus, c'est à la base, c'est le centre de Motus et les acousminiums, donc orchestre de haut-parleurs, et pouvoir faire des concerts un peu partout en France et en Europe. Et moi, je continue ce désir-là. Il y avait déjà un peu cette tendance-là, mais j'ai accentué cette tendance à l'ouverture, à d'autres formes, à mélanger la musique mixte, de l'improvisation, de la musique contemporaine, instrumentale, acoustique, donc tous ces mélanges. Voilà, j'ai apporté ce désir-là aussi dans cette, et de créer une compagnie finalement, donc cette idée de collectif aussi qu'il n'y avait pas avant. Donc de défendre l'art sonore au sens large finalement, de la musique instrumentale contemporaine à l'acousmatique et à la radiophonie, etc., etc.
Et puis maintenant, vous redéveloppez votre label de disques, de DVD.
Oui, il était un peu endormi en 2011, depuis 2011, mais pour des raisons... il y a eu un changement. Denis Dufour était directeur du label jusqu'en 2011. Il me l'a laissé aussi à ce moment-là. On a essayé de monter... Il y avait 2 projets à ce moment-là qui sont nés, donc le DVD de Michel Chion et un CD instrumental de Christophe Bertrand, et qui ont mis beaucoup de temps à sortir. Donc il y a eu un trou pendant jusqu'à 2014, où on a sorti 2 CD et un DVD. Michel Bokonowski, Bruno Capel et Michel Chion, enfin, qui a été long. Il a voulu retravailler son DVD. Donc, et le CD Christophe Bertrand va sortir en avril. Donc en effet, une volonté de ressortir des CD, parce que c'est important pour les compositeurs finalement. Il y a quelque chose, il y a un objet, et donc on fait attention un petit peu aussi à la pochette, au graphisme. Mais on refuse pas la vente numérique, au contraire, je pense que moi c'est l'avenir. De toute façon, il y a un moment, cet objet-là, il va disparaître sous cette forme-là, en tout cas. Donc on travaille aussi à la distribution numérique.
Vous occupez une place très importante dans l'univers de l'électroacoustique en France, puisque quand on observe maintenant, il y a très peu d'acteurs. On a l'impression même qu'il y a une déshérence des acteurs.
Alors oui et non, il y a eu une déshérence des acteurs. Alors au niveau structure, oui, en effet, principalement au niveau structure, en effet, on a pris une place à un moment où il n'y avait plus personne finalement, où des festivals se sont arrêtés, où des centres nationaux de création musicaux ont été fermés. Je parle d'IMEB. Donc on a une certaine activité, on fait pas mal de concerts. Mais par contre, il y a toujours eu beaucoup de compositeurs, ça je précise. En effet, au niveau de structure de diffusion, il y en a très peu, mais au niveau de compositeurs, il y en a énormément. Et là, il y en a peut-être de plus en plus parmi la jeune génération. Et pareil, il y a de nouvelles structures qui sont en train de se créer actuellement, des petites, pour l'instant petites, on verra plus tard. Donc j'ai l'espoir que ça y ait une renaissance actuellement.
C'est un paradoxe, puisqu'on a la montée des musiques électroniques, on a l'impression qu'il y a eu une situation bizarre par rapport à la musique électroacoustique.
Là, il y a une situation bizarre parce qu'il y a eu, je vais être peut-être un peu polémique, enfin polémique, il y a eu quand même, particulièrement en France, il y a eu un anti-acousmatique, un musique de support, sans doute venu de Boulez, même si il y a d'autres choses, hein, mais voilà, Boulez qui déteste la musique concrète et qui l'aurait affirmé il y a quelques temps déjà. Il y a un côté accusation de bricolage, accusation d'être froid, mais c'est par des gens qui vont pas au concert en général en plus. Donc il y a eu ça, en effet. Et peut-être que la musique électronique, ça a été une chance pour nous, si, parce que ça a permis de faire accepter un public plus large, un autre public finalement, notre musique. Parce que ils ont l'habitude d'entendre des sons et de pas forcément voir des musiciens sur scène. Donc en effet, il y a ce paradoxe-là, mais je pense que c'est une citation assez française, que j'ai l'impression qu'à l'étranger, il y a moins cette dichotomie entre le compositeur instrumental et le compositeur acousmatique. Et j'ai l'impression que même en France, maintenant, ça, il y a aussi des passerelles de... aussi parmi la jeune génération qui se font plus facilement.
Et vous participez à la formation de compositeurs ? Ils se forment où, les compositeurs ?
Alors, il y a une trentaine de classes en France, encore, quand même, dans les conservatoires. Voilà, ils se forment beaucoup là. Nous, on... Alors, on ne forme pas les compositeurs, non. Ça fait longtemps qu'on a fait des stages, il y a quelques années. Motus a fait des stages il y a une dizaine d'années, mais plus maintenant. Bah, actuellement, on forme plus des interprètes sur Acousmonium, par contre, dans des stages et dans des masterclass. On va plutôt suivre, on va plutôt faire des ateliers de création vers des scolaires et des enfants, par contre, nous. C'est plutôt notre domaine, plutôt que la formation de compositeurs.
Alors, la place de l'interprète, justement, vous venez de le poser, ça veut dire que si dans la musique électroacoustique, il y a un interprète.
Alors, nous, on défend cette position-là. Et j'ai remarqué que de plus en plus de gens en parlent, et donc c'est plutôt bien pour nous. Oui, en effet. Alors, je précise une chose. Hein, c'est, pour moi, il y a une petite différence entre l'interprète instrumentiste et l'interprète acousmate. Je vais revenir. Déjà, expliquer ce que c'est l'interprète acousmate, c'est peut-être mieux. L'interprète acousmate, c'est celui qui est derrière une console, au milieu de la salle en général, et qui va projeter le son sur l'ensemble de haut-parleurs. Et donc, il va choisir quel haut-parleur, devant, derrière, la distance, la couleur, et la vitesse de changement, le nombre, et en fonction de la musique. Donc, il va travailler cette musique. Avant, il va la prendre par cœur. Au mieux, il va prendre le par cœur, ou il va prendre des notes, et il va l'analyser. C'est pour ça qu'il c'est un musicien qu'il nous faut, en fait, c'est pas un technicien. Et il va jouer en direct, il va exagérer les mouvements, il va exagérer les distances, enfin... Il va construire l'écoute des gens, en fait, c'est ça. Son rôle, c'est de construire l'écoute des gens. Et pour moi, il y a vraiment interprétation, parce que on le sent bien, parce qu'entre dans mon équipe, j'ai cinq interprètes. On sent vraiment la différence de jeu entre eux sur la même pièce. Ce serait pas du tout enfin, ce sera toujours la même musique, mais ce sera pas la même. Il y en a un qui sera plus virtuose, il y en a un qui a un son généreux, l'autre qui sera précis dans les espaces. Après, il y a une petite différence, en effet, avec l'instrumentiste. Il va pas créer le son. Le son est là. On pourrait appuyer sur le bouton, la musique, elle serait toujours là. Alors que l'instrumentiste, il est obligé de, c'est son son à lui, vraiment.
Il y a combien de haut-parleurs pour petits concerts, je sais pas, s'il y a des critères ?
Il n'y a pas vraiment de critères. Alors c'est peut-être la taille des haut-parleurs qui vont faire la différence. Dans un petit lieu, on pourra avoir 40 haut-parleurs, mais c'est avec des petits haut-parleurs. Dans un lieu de 100 mètres carrés, comme on fait souvent à Paris, parce que les salles sont petites pour nous. Voilà, c'est une quarantaine de haut-parleurs. Après, c'est vrai qu'au Festival Futura, parce que la salle est grande, on amène tous nos haut-parleurs, donc on a 110 haut-parleurs dans toute la salle. Et de calibres très différents, de tailles très différentes.
Et ça se classe comment, les haut-parleurs ? Il y a un mode de classement, une hiérarchisation ?
Alors oui, il y a des hiérarchisations, c'est vraiment ça. Il y a des... Déjà, dans les haut-parleurs eux-mêmes, il y a des haut-parleurs qui ont, en gros, même s'ils sont, il y a toujours une couleur différente selon les haut-parleurs, mais ils ont toutes les fréquences, à peu près égales. Donc ça, c'est les haut-parleurs large bande, comme on dit, et qui nous servent un peu à faire entendre la musique correctement. Et après, nous, on utilise aussi des haut-parleurs qu'on appelle colorés. Donc il y en a qui sont les subs vraiment que pour les basses. Après, il y a les bas médiums, les médiums, les hauts médiums, les suraigus. Et ceux-là vont servir à justement faire ressortir une couleur ou à faire déplacer naturellement le son, parce que un son va se déplacer entre les différentes couleurs de haut-parleurs naturellement. Donc ceux-là, ils sont moins utilisés finalement, parce qu'ils sont juste là pour donner pour renforcer quelque chose. Et on joue beaucoup sur la différence de couleurs justement.
Et les compositeurs, quand ils conçoivent la musique, ils intègrent toujours cette notion de l'interprétation, ou est-ce que c'est quelque chose qui est subsidiaire dans leur démarche ?
Alors ça dépend du compositeur. En gros, ça dépend s'ils ont eu contact ou pas un jour avec un interprète ou une musique jouée par quelqu'un d'autre. Et puis ça dépend un peu du compositeur. Moi, je sais que moi, personnellement, en effet, j'intègre, je dis tiens, la création va être dans tel lieu. Finalement, elle va être composée un peu différemment. Il faut qu'elle marche dans tous les lieux, évidemment, on peut pas... Et avec tous les interprètes. Mais si je sais qui va jouer et comment elle va... et où... Voilà, ça change un petit peu les couleurs. Si je sais que ça va être... j'ai fait une création pour le Grand Palais un jour. Là, j'ai tenu en compte totalement l'espace. Et je sais que c'était Jonathan Prévet qui l'a joué. Donc, un de nos interprètes. Quasiment le fondateur de cette idée-là de l'interprétation, d'ailleurs. Je savais de la manière dont il jouait. Donc, j'ai réfléchi sur quelque chose d'un peu virtuose. Par exemple, à des moments, quelque chose où il se fasse plaisir lui aussi. Donc je sais que je ne suis pas le seul à la faire comme ça, hein, à réfléchir à cette interprétation. Après, les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est un art qui est joué dans le monde entier, et c'est une interprétation née en France, même s'il y a d'autres pays maintenant, il y a le Japon, il y a l'Italie qui travaille beaucoup là-dessus, la Belgique, l'Angleterre, il y a des pays où il y a moins cette conscience-là de l'interprétation.
Et vous créez des outils, ou Motus, est-ce qu'il fabrique des outils, des logiciels, ou simplement ils sont plutôt du côté de l'interprétation ?
Non, on ne fabrique pas de logiciels, on est vraiment du côté artistique. Il n'y a pas de technicien vraiment dans Motus. Il y a un régisseur, il y a ce qu'il faut, mais il n'y a pas de programmateur. C'est arrivé du coup, parce qu'on a un côté recherche aussi. on avait une doctorante qui était employée à un moment, elle n'est plus employée pour l'instant, mais ça va revenir, ou qui a développé des outils d'analyse contemporamentale, mais c'était pour des installations sonores interactives. Et donc, elle a demandé à des ingénieurs de développer un logiciel spécial. Il y a eu un logiciel spécial qui a été fait pour ça. Mais c'est... La recherche, c'est important pour nous, mais cette activité logicielle, c'est annexe, par contre.
Et donc, vous allez beaucoup vers des collaborations ?
Alors, oui, on collabore de plus en plus, en effet. Alors, soit des projets qui... On nous a demandé pour des projets, par exemple, avec Instant Donné. C'est Instant Donné qui nous a proposé le contact de Schaffhausen, donc sur cette pièce-là. Donc là, c'est leur projet... Enfin, c'est un projet quand même, parce qu'on a construit ensemble la musique, mais c'est leur projet de concert, à eux, oui. Et inversement, nous, on a... proposé à par exemple, on a fait un projet avec Cyril Test, qui est un metteur en scène et qui nous a amené sa compagnie, et un poète qui s'appelle Jérôme Gamme. Et là c'était notre projet, on a fait une création collective avec lui, mais donc on a ces deux pendant. Et donc là c'était vraiment une forme plus ouverte, justement, avec Instant Donné, c'était concert traditionnel, et nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est une forme de spectacle, en fait, pas forcément spectaculaire, pas forcément visuel d'ailleurs, ça peut être spectacle sonore. De plus en plus, j'essaye de mélanger justement différentes formes dans un même concert, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'acousmatique, parce que ça j'y tiens et c'est un art pour moi très important. Mais il pourrait y avoir aussi de la vidéo, il pourrait y avoir aussi de l'improvisation, de la musique contemporaine. Et l'intention, c'est de faire entrer les spectateurs dans un spectacle sonore, en effet, ils arrivent. Et on les fait voyager, en gros on les amène d'un point A à un point B, en jouant sur la perception entre le scénique, le non scénique, entre l'englobant, le frontal, l'immersif, le visuel, etc. Et ça, c'est des choses que j'ai plus en que j'expérimente depuis plusieurs années à Motus, mais gentiment, comme ça, petit à petit, que là, on va essayer de le faire un peu plus, et avec le soutien de la mise en circuit, parce qu'on est résidence à la mise en circuit. Et on va faire déjà 3 expériences l'année prochaine au théâtre studio, il y a Alfortville, et avec des lectures de textes, avec de la vidéo, etc. Donc là, on va essayer dans des salles plus grandes, parce que les expériences étaient dans une toute petite salle de 50 places. Et là, on essaye, voilà.
Là, maintenant, vous collaborez avec des centres de création, c'est ça qu'on...
Ça, c'est tout nouveau, c'est nouveau depuis 3 ans, ils nous acceptent. En fait, je blague un peu. C'est en effet, depuis 3 ans, on collabore avec des centres nationaux de création, donc à Marseille, ou même, et bientôt à Césarée, on va faire un concert, et principalement à la mise en circuit, depuis l'année dernière. Parce que je pense qu'ils ont compris qu'on faisait pas la même chose qu'eux, en fait. On fait de l'électroacoustique, en effet, mais on apporte notre... On est un collectif artistique, on importe nos idées, notre savoir-faire, notre chose qui, je pense qu'ils n'avaient pas forcément compris avant, parce que nous on fait la même chose en fait, ils ont des haut-parleurs, non, on fait pas la même chose, et enfin ils ont compris.